pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Bienvenue au village de l'eau.
Pendant ce village de l'eau, nous allons essayer de créer des solidarités. Il est important plus que jamais de nous mettre en réseau, de nous parler, de créer des liens entre nous. Et les conférences, tables rondes, formations vont être l'occasion de partager nos expériences, de nous mettre en lien et d'essayer de créer un réseau fort pour lutter contre l'accaparement de l'eau. Noba Saran, et soyons unis.
Noba Saran.
Aujourd'hui, les méga-bassines contre lesquelles nous luttons sont un des innombrables moyens pour maintenir les agro-industries sous perfusion et empêcher l'avènement des formes d'agroécologie vivrière, de permaculture, héritière des cultures paysannes et autochtones qui font pourtant à petite échelle leur preuve chaque jour partout sur la planète depuis les millénaires. À l'heure où l'hydroélectricité comme le nucléaire passe pour des énergies renouvelables et décarbonées, on a oublié que si ces infrastructures ont fait partie des plus contestées et les plus emblématiques des mouvements de résistance écologique et autochtone, c'est qu'elles sont l'aboutissement du modèle capitalisme militaire, néocolonial, patriarcal et extractiviste. Il est temps d'en finir.
Yabasta. Salut les amis, nouvel épisode de notre saga Village de l'eau. Formidable et génial événement accueilli par Saint-Martin-les-Mels en juillet 2024 dans le Poitou. Événement officiellement porté par Sud Solidaire, Attaque, organisé par Bassine Non Merci, les Soulèvements de la Terre et une pléiade d'autres collectifs dont certains seront mentionnés dans l'heure que nous allons aujourd'hui passer ensemble autour d'un bilan du village de l'eau, bilan suivi de déclaration de l'Assemblée des mouvements de défense de l'eau, c'était le dimanche 21 juillet. Défendre l'eau, c'est pas seulement lutter contre les méga-bassines, défendre l'eau, sa quantité, sa qualité, c'est s'opposer aux produits chimiques, pesticides, PFAS, métaux lourds utilisés par l'industrie comme la fabrication de composants électroniques, plastique et pillage de l'eau par l'industrie des embouteilleurs. Défendre l'eau, c'est aussi comprendre et s'investir dans les instances officielles qui régissent l'eau. Comment articuler toutes ces luttes qui ont les mêmes adversaires impitoyables au national comme à l'international ? Les avances tour d'horizon de lutte pour la défense de l'eau, premier bilan du village de l'eau avec Anne Morwen-Pastier de Bassine Non Merci, qui sur cet événement n'a pas œuvré en tant qu'hydrogéologue, mais à la régie générale, comme quoi un doctorat en sciences de la Terre peut mener à tout.
Merci beaucoup à toutes et à tous. On a été ravis de vous accueillir aussi, donc c'est bien, c'est assez réciproque. Donc on est là pour clôturer cette semaine qui a été assez incroyable, dans laquelle il s'est passé des tonnes de choses. Si on avait décidé de prendre une semaine entière, c'était pour prendre le temps, pour une fois, parce que nos mobilisations d'habitude, elles vont très très vite. Et cette fois, on a pris le temps de se former, de se rencontrer. Et au niveau de l'organisation, on a vraiment pris le temps de travailler ensemble, de croiser les expériences. On a été très très nombreuses à apprendre des tonnes de choses. Alors ce village, certes à la base, il est organisé par la coordination anti-bassine et notamment l'ensemble des collectifs Bassine en Merci et les Soulèvements de la Terre. Mais surtout, cette qualité d'accueil, cette logistique incroyable et aussi en termes de rapidité, un montage très rapide et on aura un démontage très rapide, je vous en reparlerai. En fait, nous, on a surtout coordonné énormément de collectifs très compétents qui essayent vraiment de s'autonomiser pour qu'on puisse continuer à organiser des événements pareils. Je voudrais remercier très chaleureusement l'ensemble des gens des chapiteaux qui ont vraiment créé des espaces, des ambiances, qui nous ont accueillis à cœur ouvert. Vraiment, ils méritent énormément, énormément d'applaudissements. Et dans tous ces autres collectifs, deux mutuelles de matos, on a la Mutmat de Rennes et la Matmout de Bure. Merci énormément. La ZAD de Notre-Dame-des-Landes. On a aussi eu énormément de mouvements de bénévoles qui ont répondu à des appels et notamment l'ensemble des interprètes qui ont fait un travail incroyable d'interprétation simultanée en 4-5 langues. Je voudrais remercier les gens de la Méga Radio qui vraiment se sont associés pour nous informer toute la semaine, même avant, aussi bien en termes de fonds politiques que des actualités de ce qui se passait sur le village et pendant les manifestations. les gens du groupe Trace qui ont créé cette gazette, la Gazouille, toute la semaine, qui collectent nos expériences, prennent le temps d'écrire notre propre histoire, notre propre récit pour contrer les mensonges qu'on peut entendre en permanence. Il y a eu énormément de collaborations avec Reprise de Savoir également. On peut dire un gros merci à l'ensemble de la base soins avec la Legal Team. La Legal Team qui a fait un travail énorme, notamment avec toutes les saisies qui ont eu lieu, parce que ça n'a pas aidé à la logistique du montage quand même. Les équipes de Médic qui sont venues des quatre coins de la France, voire d'Europe. L'équipe de veille, de soutien psy, l'outre Fight Sexism, la médiation, l'équipe Andy des validistes et la bambinerie. Dans ce groupe, on a aussi une nouveauté, c'est le groupe de la formation militante. J'espère que la plupart des personnes ici sont passées par ces nombreuses formations, aussi bien au niveau légal, de connaître les bons réflexes en anti-répression, les armes de la police, mais aussi comment on apprend à se déplacer collectivement et comment on apprend à faire corps toutes ensemble. Tout cela aussi n'aurait pas pu être possible sans deux organes majeurs qui ont porté la responsabilité de cet événement, qui se sont vraiment engagés très très fort. C'est le syndicat Solidaire et Attaque. Un énorme merci, vraiment. Et puis bien évidemment, on l'a fait quasiment tous les jours, mais on le fera encore. On voudrait remercier l'ensemble de l'équipe municipale de la mairie de Mel, aussi bien le conseil municipal que l'ensemble des services techniques. Encore une personne, le paysan local installé à la ferme de la Génellerie, qui nous a ouvert sa ferme, qui a permis de lancer une dynamique locale que malheureusement vous n'avez peut-être pas trop vue, mais il y a eu plein de chantiers participatifs en amont de cet événement, pendant cet événement. La ferme de la Génellerie, une fois qu'on sera passé, elle sera beaucoup plus belle qu'avant qu'on y soit passé. Et ça, c'est une grosse, grosse force de cette mobilisation. Un énorme collectif qui a été incroyable toute cette semaine, qui a réussi à évoluer et à... Alors là, vraiment, en termes de croisement d'expérience et d'apprentissage, ça a été une grosse leçon. C'est la méga cantine et l'international boulangerie mobile. On a plus d'une dizaine de cantines de toute l'Europe qui sont venues. Vous avez dû voir une amélioration dans l'organisation de la cantine au long de la semaine. Et ça, c'est lié à la collaboration entre toutes ces différentes cantines. Voilà. Si je tiens à remercier tous ces collectifs, c'est parce que c'est très important qu'en ce moment, en ces temps très très sombres politiquement, c'est très important qu'on se rencontre, qu'on s'organise, qu'on apprenne à travailler ensemble. Dès maintenant, il faut vraiment renforcer ces réseaux et préparer la résistance de demain. Désolée, je vais finir sur une note un peu rabat-joie. Vous voyez qu'on a encore toutes ces structures, tout ce matériel qui est monté partout. À partir de la fin d'après-midi et pendant 3 jours, on va démonter. On a besoin de beaucoup de bras, on a besoin d'énergie et on a besoin de vos sourires aussi. N'hésitez pas à rester sur le site quelques jours pour nous aider à démonter tout ça. Deuxième petit point un peu rabat-joie, c'est que globalement, on ne rentre pas dans nos frais, qu'on a un déficit qui n'est pas négligeable, d'une centaine de milliers d'euros. Donc n'hésitez pas à laisser un petit billet en partant dans les caisses de soutien. Il y a une cagnotte en ligne toujours accessible sur le site de Bassine-Lemercier et le site des soulèvements. Voilà, merci beaucoup et bonne assemblée des mouvements de défense de l'eau.
Un grand merci à Wayne pour tout son travail. Moi, je vais vous parler au nom d'un petit réseau qui s'appelle Hydre. Parfois, on l'appelle aussi Hydrofurieux. Petit réseau qui s'est monté il y a 2-3 ans maintenant, qui est un espèce d'espace qu'on construit ensemble depuis différents espaces de lutte pour l'eau, pour essayer de se former mutuellement aux différents enjeux. C'est beaucoup parti de différentes luttes déjà existantes, alerte pesticides, etc., qui se sont rassemblées avec un peu cette espèce de sensation que les luttes sur l'eau étaient beaucoup trop en silo, qu'il y avait d'un côté les luttes plutôt paysannes autour des enjeux des bassines, etc. Il y avait d'un autre côté les enjeux sanitaires et santé autour des pesticides. Il y avait d'un autre côté les enjeux plutôt accès à l'eau potable, droit à l'eau, toutes les questions autour des régies publiques, encore ailleurs la question de l'eau en bouteille et de la lutte contre les minéraliers, etc., etc. Et que tous ces espaces de lutte y coexistent, donc aussi les luttes qui sont plutôt défense des rivières, défense des milieux, etc. Et que toutes ces luttes, elles coexistent, elles se connaissent, mais que le travail d'articulation de ces luttes et de comment est-ce que toutes ces violences, toute cette offensive de la modernité technocapitaliste sur nos eaux, elles sont reliées et elles sont connectées, et que de l'autre côté, les industriels et les accapareurs, pour les nommer rapidement, eux sont en lien et sont bien en lien et tissent leur stratégie collectivement. Et que nous, on sentait qu'on pouvait parfois ne pas se poser la question d'où vient l'eau potable quand on parle de régie publique, quels sont les usages de cette rivière dans une perspective de défense des rivières et personnalité juridique des rivières, etc. C'est un mouvement qui se fait spontanément dans plein d'endroits différents. Il y a un travail aussi d'analyse, d'articulation qui doit se faire et qui doit mieux se préciser pour comprendre en quoi ces différentes modalités d'accaparement, elles sont complètement connectées. Si on ne prend pas l'échelle internationale, on se met le doigt dans l'œil. C'est impossible de se poser ces questions-là sans avoir une perspective radicalement décoloniale et internationaliste. C'est pour ça qu'on a participé activement au sein du réseau Hydre dans la programmation de cette semaine pour essayer vraiment de continuer à s'armer sur les questions de solidarité internationale. On va avoir un temps un peu plus tard là-dessus dans cette assemblée. Et aussi, un des autres choses qui est très intéressant, c'est de voir aussi que chacun de ces collectifs est situé différemment géographiquement, en fonction des bassins versants, des territoires, en fonction des rivières. Tout change un peu, les institutions de l'eau, même si c'est les mêmes acronymes, elles ne se pensent pas, elles ne se travaillent pas de la même manière. Les sols vont proposer d'autres manières de circuler en souterrain. On sent aussi qu'il y a une grande richesse à se désiloter de manière thématique, mais aussi se désiloter de manière géographique. Comment s'articulent ensemble les enjeux d'inondation dans le nord, les enjeux de sécheresse dans le sud, les grandes pluies liées au front océanique, etc. Et donc, comment est-ce que, pareil, on se forme ensemble à essayer de comprendre comment toutes ces choses-là sont connectées, reliées. Donc, ce collectif, on le pense un peu comme un collectif d'auto-formation mutuelle. On se rend compte qu'il y a des questions sur lesquelles chaque collectif bute. C'est quoi les enjeux autour des institutions locales? Comment est-ce qu'on les comprend? Comment est-ce qu'on les décrypte? Comment est-ce qu'on les infiltre ou pas? Où est-ce que c'est intéressant de les infiltrer? Où est-ce que ce n'est pas intéressant de les infiltrer? Quelles sont les baronnies qui gèrent ces différents endroits? Où est-ce que c'est pris par des espèces de mafias territoriales? Où est-ce qu'il y a des brèches dans lesquelles il y a moyen de s'infiltrer? C'est dans la juxtaposition de ces choses-là et de l'articulation de ces choses-là qu'on peut arriver à une finesse. Un des autres gros enjeux dans la question de qu'est-ce que ça nous fait de se tenir ensemble, la question de, ben, en fait, c'est quoi les cycles de l'eau? On se rend compte qu'il y a quand même un imaginaire très pauvre de c'est quoi les cycles de l'eau et comment est-ce que l'eau circule réellement sur un territoire? Quelle est la réalité des modalités d'accaparement de l'eau sur les territoires, les systèmes techniques, les enjeux techniques? Et tout ça, on pense que c'est très important pour avoir une lutte robuste, c'est de ne pas avoir peur d'aller dans la complexité, de se réapproprier les enjeux qui sont trop souvent cantonnés au domaine de l'expertise. Bassine Non Merci fait partie aussi de ce réseau et c'est vraiment essayer de se donner aussi des temps de formation mutuelle, d'apprentissage collectif, et donc on est vraiment ravis de ce temps-ci. On va reproposer un prochain temps sans doute à l'automne sur la compréhension des systèmes institutionnels liés à l'eau, de se former sur c'est quoi les agences de l'eau, d'où ça vient, c'est quoi son histoire, trajectoire politique, à quel moment est-ce que c'est devenu ce truc-là qui, dans plein d'endroits, ne devient plus du tout des alliés de nos eaux, mais plutôt des ennemis de nos eaux, et par quel mécanisme est-ce que ça a été détourné, et aussi de comprendre comment est-ce que collectivement on essaye de s'en saisir, et aussi de voir Comment est-ce qu'on essaye de détourner ces espaces-là et toutes les expériences de plans de gestion alternatifs, d'assemblées citoyennes sur les enjeux de l'eau, de parlements de rivières, et d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on essaye d'inventer ces institutions mineures de l'eau qui seraient beaucoup plus populaires, beaucoup plus démocratiques, beaucoup plus reliées à la forme de nos bassins versants et de nos rivières. Et c'est un peu ce temps-là qu'on aimerait se donner à l'automne. Donc ça, c'était pour la petite présentation introductive du collectif Hydre. Je vais laisser la parole à différentes personnes liées de près ou de loin à ce réseau et qui font partie de différentes luttes sur l'eau. Et on va leur les écouter présenter en 2 minutes aussi, se donner un peu la teneur de ces luttes, mais aussi les perspectives et les besoins d'articulation qui restent présents. Et merci beaucoup pour votre écoute.
Oui, moi je parle un peu au nom du collectif Alerte Pesticides qui s'est constitué en Gironde, mais au-delà, à tous ceux qui luttent contre les pesticides, leur présence dans l'eau, vous le savez, devient chaque jour un peu plus catastrophique. Et en plus, il y a ce qu'on ne sait pas et qui se dévoile peu à peu, puisqu'on découvre des moyens de détecter des pesticides qu'on ne testait pas jusque-là. Et les pouvoirs publics n'ont qu'une attitude, en fait, c'est de changer les seuils pour pouvoir rendre potable ce qui ne l'est pas, et permettre la distribution d'eau qui ne devrait pas être bue. Donc cette question de la présence des pesticides dans l'eau, c'est une autre forme d'une violence inouïe d'accaparement de l'eau, hein, autre que celle des bassines, mais l'eau est accaparée pour tout le vivant avec ces pesticides dedans. Et on a fait une première table ronde pour inaugurer cette semaine de l'eau mardi, avec différents acteurs qui ont montré à la fois les dangers qu'il y a pour la santé des gens, mais aussi la vanité des réponses technologiques, hyper technologiques, les fuites en avant avec l'osmose inverse, avec la réutilisation des eaux usées et l'absence de ou le sous-développement des solutions basées sur la nature. Ces débats sont passionnants et se sont transformés par l'idée qu'il fallait qu'on continue de travailler ensemble. À Hydre, on va faire des week-ends de formation parce qu'il y a un énorme besoin de formation chez les militants confrontés à ces questions. Petite parenthèse, et signaler que la méga radio qui a enregistré beaucoup de ces conférences va faire une plateforme de podcast, puisque c'est ce qu'on nous demande, pour que tout ce que vous n'avez pas pu entendre, vous puissiez l'entendre à tête reposée sur le site de BNM ou des soulèvements. Vous aurez l'information en temps utile. Voilà, merci.
Bonjour, je m'appelle L'eau qui mord, Renélise. Je viens de Vittel. Je viens de Vittel, où depuis 8 ans, avec un collectif, le collectif Eau, nous sommes en lutte contre l'accaparement de l'eau, la prédation par Nestlé, la multinationale Nestlé, qui embouteille les marques Vittel et par Contrex. Nestlé a aussi un autre site en France, à Vergès, qui embouteille l'eau Perrier. Je voudrais vous parler ici au nom de plusieurs luttes contre l'embouteillage qui ont lieu en France depuis plus ou moins longtemps. Je crois que Vittel, c'est la lutte la plus ancienne. Ces luttes ont décidé de se coaliser et d'appeler d'autres sites d'embouteillage à se joindre à nous contre l'extractivisme de l'eau à l'usage de l'embouteillage. On a plusieurs types de prédateurs. Il y a des très, très gros prédateurs. Nestlé, Danone, ce sont des multinationales. Il y a aussi Coca-Cola qui embouteille des sodas en France, mais de l'eau ailleurs, en Allemagne par exemple, et contre lequel nous sommes en lutte aussi. Il y a des plus petits. Des entreprises qui étaient régionales, des groupes comme Alma, vous connaissez tous, c'est cristalline. Et puis la marque Augeux, qui étaient des petits groupes régionaux qui vendaient en circuit court, comme ils disent, et qui sont en train de grossir. Alma, par exemple, exploite autant d'eau, vend autant de bouteilles que Nestlé sur ses 2 sites français. Donc ça n'est pas rien. Et puis après, il y a des groupes encore plus petits, qui sont des petits groupes financiers, où il y a des fonds d'investissement étrangers. Et il y a aussi des supermarchés, des grands groupes de distribution, Leclerc, Intermarché, qui se mettent eux aussi à piller notre eau pour la vendre, et faire beaucoup de profit avec. Voilà. Donc j'attire votre attention sur le fait que dans votre région, c'est sûr, vous avez un embouteilleur qui est en train de piller votre eau. Donc nous vous appelons à vous réveiller et à vous rejoindre. Les caractéristiques de ces gens-là, sur Vittel, on coche toutes les cases, c'est accaparement de terre, accaparement de l'eau, greenwashing. Chez nous, on a des décharges plastiques monstrueuses, on a des assecs de ruisseaux. Et puis, complicité avec les élus, avec les institutions, tu en parlais tout à l'heure, l'agence de l'eau, le BRGM, etc. Ils se tiennent tous la main dans la main, et l'État, évidemment. Voilà. Donc, il y a besoin, déjà entre nous, de nous rencontrer pour partager nos expériences, faire des actions communes, et rejoindre des camarades qui sont déjà en lutte, on en connaît au Canada, aux États-Unis, au Mexique, et d'ailleurs, je salue la lutte des Pueblos Unidos, qui se battent contre Danone avec l'eau Bonafone. Et je leur envoie un grand message de soutien, puisqu'on l'avait déjà fait l'an dernier au Bassine. Donc, merci à tous. Vous avez des coordonnées. L'eau qui mord, vous écrivez à Hydre et on se rejoint. Merci.
Il y a une cartographie des points d'embouteillage qui est disponible sur le site de Reporter. Toutes les personnes qui ont envie de se mobiliser sur leurs eaux localement, n'hésitez vraiment pas à aller voir ça et voir qui sont les embouteilleurs près de chez vous. On a peu parlé de l'embouteillage sur ce camp, mais c'est un des vrais problèmes de prédation de l'eau aujourd'hui. Je vais passer la parole à la camarade de Stop Micro, qui est aussi une lutte importante actuelle.
Salut, nous on fait partie de Stop Micro, c'est un collectif qui lutte contre l'accaparement des ressources par l'industrie du numérique, de l'électronique. Nous, en l'occurrence, on vient de Grenoble, mais en fait, il y a des industries du numérique et de la microélectronique partout. Ça va de la mine jusqu'à la vente. Donc, en fait, il y a plein d'endroits pour se mobiliser. À Grenoble, on a deux leaders européens de la microélectronique qui pompent une partie de l'eau colossale de la vallée à côté de Grenoble. À l'annonce de l'agrandissement des deux usines en question, on a créé un collectif pour se mobiliser contre. Pour dire qu'on voulait une autre gestion de l'eau et une gestion collective de l'eau et à d'autres usages. C'est des usines qui bénéficient de subventions publiques énormes, c'est des milliards d'euros de subventions publiques et c'est pour des profits privés.
En quantité d'eau, en fait, elles utilisent énormément d'eau pour fabriquer leurs puces qui vont dans tous les objets électroniques et aujourd'hui on en a de plus en plus dans notre quotidien. Elles utilisent cette eau pour rincer des plaquettes de silicium et les graver avec des produits chimiques. En quantité, on parle d'une mégabassine de Sainte-Soline tous les 21 jours. Et c'est l'eau potable de la ville de Grenoble qu'elles pompent directement. Et ensuite, elles vont rejeter cette eau qui a servi à rincer les produits chimiques dans la rivière qui traverse ensuite la ville. Il y a des polluants lourds comme du cuivre, de l'aluminium. Il y a aussi des produits eutrophisants, le phosphore et l'azote, c'est ce qui fait des algues vertes. On s'est rendu compte récemment qu'elles émettaient aussi beaucoup de PFAS. Elles travaillent notamment avec Arkema, donc ça fait du lien avec beaucoup de luttes. Elles profitent de dérogations, notamment de la DREAL, pour pouvoir rejeter plus que, par exemple, les normes européennes. Et ce qu'elles ne peuvent pas rejeter, ça s'appelle des boues toxiques. Elles en produisent 12 tonnes par an, stockées et incinérées par d'autres entreprises.
Du coup, nous, ce qu'on a envie de dire avec ce collectif, c'est que le numérique, c'est pas écolo, ce sera jamais écolo, que la transition écologique, elle se fera jamais par le numérique. Plus on se penche sur les usages des puces qui sont produites là-bas, et plus on trouve des trucs dégueulasses. En fait, les trois quarts des objets qui sont produits, c'est des objets connectés qui servent à rien. C'est des gadgets, c'est des tondeuses à gazon automatiques, c'est des bouteilles d'eau qui nous rappellent à quel moment il faut boire dans la journée. Et il y a une partie non négligeable qui va aussi dans l'armement. Il y a des puces qui ont été produites à côté de chez nous et qui se retrouvent dans des armes en Ukraine et en Palestine. Au-delà de accaparer nos ressources, ça crée des objets juste néfastes. Pour ce qui est de nos mobilisations,
donc c'est un collectif qui a été créé en 2022. En 2023, on a fait une première manifestation, il y avait 1000 personnes. En 2024, il y avait 2000 personnes. On a organisé un blocage de la presqu'île scientifique à Grenoble, là où il y a tous les ingénieurs qui inventent toutes ces technologies néfastes à l'avenir. Et on s'est mobilisé avec le comité des soulèvements de la Terre et on aimerait faire plus de liens entre toutes ces luttes aujourd'hui.
Bonjour à tous, je suis du Pas-de-Calais, je suis paysan et justement par rapport à la question des pesticides, j'élabore des préparations naturelles peu préoccupantes qui sont une réelle alternative, qui ont plus de 4000 ans d'âge par rapport aux produits de synthèse qui sont fabriqués en fait justement, donc pesticides, herbicides, fongicides. À côté de ça, donc, je pense que vous n'êtes pas sans savoir que dans le Pas-de-Calais, en fait, on a été lourdement impacté cet hiver. Nous-mêmes, à titre personnel, on a été inondés 8 fois en 4 mois. Les terres justement que je cultive se sont retrouvées un mois et demi sous l'eau. J'ai perdu énormément au niveau de mes productions, de mes récoltes, tout ça. Donc ça remet en question en fait, justement, l'intégralité de notre projet, qui est un écolieu nourricier pédagogique, bref. Et à côté de ça, je fais aussi partie d'une association qui s'appelle « Pour une hydrologie régénérative ». Pure France, qui agit au niveau national et qui se propose en fait justement de porter à connaissance des solutions simples fondées sur la nature, l'hydrologie régénérative, qui repose sur quatre actions que sont ralentir, répartir, infiltrer, stocker l'eau dans les sols et aussi en fait justement de densifier la végétation, favoriser l'évaporation et de redistribuer l'eau en fait justement à travers les territoires jusqu'à 6 fois à l'intérieur des terres. Un ami en fait justement de notre association aussi a calculé que si on restaurait de ne serait-ce que 1% les sols en matière organique au niveau national, ça représentait l'équivalent de 250 000 bassines telles que celle de Sainte-Soline au niveau national. Donc pour vous dire un petit peu justement que les solutions fondées sur la nature sont bien plus pertinentes que celles proposées par notre gouvernement. Voilà.
Moi, je fais partie d'un petit collectif à Marseille qui s'appelle le collectif des Gamards. C'est un petit collectif dans les quartiers nord de Marseille qui prend soin d'un petit fleuve côtier qui s'appelle Caravelle-et-Galette, qui fait 17 km. On raconte l'histoire de ce ruisseau, on essaye d'enquêter autour de ce bassin versant. C'est quelque chose qu'on a recroisé aussi tout au long des différentes tables rondes, etc. C'est l'importance de l'enquête collective, l'enquête populaire. C'est vraiment quelque chose qui peut se faire partout. Nous, on a un petit fleuve côtier de 17 km. Sur son tronçon, les sources sont détournées par une usine Lafarge. Il est coupé en deux par une autoroute. La tour CMA CGM, leader du transport de marchandises par voie maritime, est posée sur son embouchure. Il y a un terril de bourrouge. Il y a une industrie pharmaceutique qui rejette des sels d'aluminium dans le ruisseau. Donc rien qu'en commençant à enquêter sur ce ruisseau, on déplie et on finit par dévoiler toute l'ampleur du capitalisme moderne mondial. Et en fait aussi dans ces enquêtes, d'autres choses intéressantes qui sont intervenues, c'est notamment des partenariats de recherche. La Société du Canal de Provence, gérée par la région Sud, elle fait des partenariats de recherche avec Mekorot, qui est le gestionnaire des eaux pour l'entité sioniste qui est accusée d'accaparement de l'eau sur les terres palestiniennes. Et donc, en fait, quand on boit de l'eau potable à Marseille, 30% de notre eau potable, on la paye et on finit par financer indirectement des partenariats de recherche avec un projet génocidaire. Ah oui, un petit élément. Toutes les eaux souterraines sont détournées pour refroidir les data centers. C'est ce qu'on appelle le river cooling. Donc on est aussi sur toute une enquête avec des gens de Technopolis et de la Quadrature du Net sur les data centers. Les camarades de Stop Micro l'ont dit. À tous les niveaux, le numérique pompe l'eau. Et il y a un très chouette collectif basé en Espagne qui s'appelle Tunube Seca Mi Rio. Ton cloud assèche mon ruisseau. Et c'est vraiment cette chose-là de comment est-ce que les infrastructures du numérique qu'on nous vend comme étant des armes pour une meilleure gestion de la ressource en eau sont en réalité une catastrophe qu'il faut qu'on arrive à endiguer et qui est un des fers de lance de l'offensive technocratique sur la ressource en eau. Je vais vous lire un texte qui a été écrit par le réseau Hydre et notamment avec une personne qui n'est pas là aujourd'hui qui s'appelle Swan, qui est un grand militant de l'eau aussi. C'est un texte qui s'appelle « L'heure des glaciers ». Les glaciers ont-ils occupé le monde ? Ont-ils par deux fois plongé le globe sous le froid manteau uniforme de l'hiver ? C'est ce que semblent indiquer les nombreux blocs erratiques qu'on trouve en tant de pays. On croit aujourd'hui dans les Alpes que pendant 7 ans il avance et pendant 7 ans il recule. S'il recule, l'été est fort et la moisson abondante, les subsistances faciles et l'aisance assure la paix. S'ils avancent, l'année est froide, pluvieuse, les fruits peu mûrs, les blés manquent et le peuple souffre. La révolution n'est pas loin. Redoutable thermomètre sur lequel le monde entier, le monde moral et politique doit toujours avoir les yeux. Les changements d'atmosphère qu'ils indiquent, ces phénomènes d'influence immense et profonde avec la vie alimentaire, changent aussi la pensée, l'humeur et la vie nerveuse. C'est sur le front du Mont Blanc, plus ou moins chargé de glace, que se lit le futur destin, la fortune de l'Europe et les temps de la paix sereine et les brusques cataclysmes qui renversent les empires, emportent les dynasties. C'est un extrait de Jules Michelet, La Montagne, en 1868. Le vent se lève sur l'Occident. D'une part, la vieille Europe qui a si bien exporté la guerre ces dernières décennies se retrouve face à ses vieux démons. Elle est de retour en son sein tandis que les nationalismes fascistes regagnent du terrain. D'autre part, la même vieille Europe qui a si bien exporté plantations, mines, usines, armes et pollution associées ces dernières décennies
se retrouvent face aux conséquences de l'hypocrisie néocoloniale qui consiste à faire vivre la démocratie représentative dans l'opulence tout en exploitant le reste du monde en silence. Mais surtout, la vieille Europe est en train de perdre son toit. Ses glaciers sont en train de fondre et ses quatre grands fleuves, Rhin, Rhône, Danube et Pô, sur lesquels repose une grande part de l'économie continentale, vont perdre 30 à 50% de leur débit dans les prochaines décennies. Qui aurait pu imaginer les grandes Alpes, aux cimes sublimes, autrefois infranchissables et inquiétantes, se retrouver sans glaciers ? La forteresse suisse, à la fois château d'eau et banque, refuge du capital des grandes familles et des grandes entreprises européennes, est en péril. Bientôt, les Alpes auront perdu leur manteau de glace. Véritable démantèlement climatique de l'assurance eau européenne qui rendait jusqu'ici possibles les rêves les plus délirants comme celui de l'industrie touristique du ski et des sports d'hiver et qui sera demain au cœur des tensions qui s'esquissent d'ores et déjà aujourd'hui. Le partage ou la guerre, telle est l'alternative à laquelle nous répondons par la guerre hors de nos frontières et à laquelle nous allons désormais devoir faire face au sein même de nos pays. C'est qu'en Europe, on a tout fait pour refouler les tensions liées à la gestion, à la propriété et aux manières industrielles de retenir l'eau. Comme pour l'électricité ou les autoroutes, on a même vanté, non sans raison, les réseaux d'adduction en eau et leurs tentaculaires infrastructures de canalisation comme étant une formidable manière d'améliorer le quotidien des populations et de réduire les inégalités entre les territoires. Aujourd'hui, l'eau est cotée en bourse et ses infrastructures développées par l'argent public sont privatisées pour le seul profit des multinationales, avant-garde néocoloniale de la suprématie blanche sur la planète. Ainsi, la région du fleuve Sécoura au sud-est de l'Espagne reçoit-elle de l'eau pour le tourisme et l'agriculture, parcourant près de 300 km depuis le fleuve Tage au centre de l'Espagne. Ainsi, la métropole marseillaise s'est déployée et vit aujourd'hui grâce à l'eau de la Durance, tout comme Las Vegas, Los Angeles et avec elle une grande partie du sud-ouest états-unien grâce aux eaux détournées du fleuve Colorado. À grand renfort de fierté nationale, savamment alimentée par des conflits interrégionaux entre baronnies, armées et multinationales, les grands barrages et l'ensemble des aménagements hydrauliques qu'ils rendent possibles sont devenus des éléments essentiels, d'abord de nos paysages apprivoisés, mais aussi et surtout du développement économique moderne. Sans grands barrages, en Europe comme ailleurs sur la planète, le monde tel que nous le connaissons n'existerait pas. En effet, sans ces immenses murailles de béton qui ligaturent nos rivières et inondent nos vallées pour stocker l'eau et gérer son débit, pas de mines dans les montagnes, ni de carrières dans le lit des rivières, pas d'agro-industrie soutenue par une irrigation intensive dans les plaines, pas de métropolisation ni d'aménagement industriel ou de flux logistique dans les zones inondables des vallées, pas de centrales thermiques au bord des fleuves, pas d'approvisionnement en eau des grandes villes. Pour le dire autrement, de l'Amérique du Nord à l'Amérique latine, de l'Asie à l'Afrique et du Moyen-Orient à l'Europe, le contrôle de l'eau passe par les grands barrages. Les grands barrages sont le premier levier industriel, à la fois premier, nécessaire et principal du développement du capitalisme moderne, du communisme étatique et avec eux de l'ensemble des formes de dictature, de colonialisme et d'impérialisme en cours sur la planète. Au XXe siècle, les conflits autour de l'eau qui restaient liés aux enjeux géopolitiques, non moins dévastateurs, de contrôle de la ressource et des échelles régionales, vont désormais devenir de véritables guerres civiles et militaires dont les enjeux seront la survie même des populations paysannes et autochtones, déjà pour la plupart décimées ou privées de leurs cultures ancestrales par les saccages des derniers siècles. Pour le dire encore autrement, l'omniprésence de la question climatique a particulièrement occulté l'autre conséquence de la destruction de la planète et du vivant. Le dérèglement des cycles de l'eau. On a oublié à quel point ces cycles sont autrement plus complexes que le schéma appris à l'école. De la même manière que l'eau, c'est la vie, les cycles de l'eau sont les cycles de la vie. Il n'y a pas que l'eau qui circule dans nos nuages, nos cours d'eau et nos océans. Avec elle, c'est la vie sous toutes ses formes, le minéral, le végétal, le fongique, le microbien et l'animal, qui est charrié dans un formidable flux qui rend possible les conditions mêmes de la vie. À l'heure où l'hydroélectricité comme le nucléaire passe pour des énergies renouvelables et décarbonées, on a oublié que si ces infrastructures ont fait partie des infrastructures les plus contestées et les plus emblématiques des mouvements de résistance écologique et autochtone depuis la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas par hasard. C'est qu'elles sont l'aboutissement du modèle capitalisme militaire, néocolonial, patriarcal et extractiviste. l'aboutissement de ce que l'abondance du charbon, du pétrole et des métaux a rendu possible en termes de contrôle et de manipulation des cycles de la vie par les bataillons d'ingénieurs chargés d'adapter la technoscience moderne au contexte géographique, géologique et climatique particulier. Soutenu par les polices et les armées ainsi que par les ingénieurs de l'âme, pour reprendre une expression de Staline, que sont les managers, les communicants, les propagandistes et les autres émissaires porteurs de valises en tout genre, chargés d'écrire et de faire exister dans nos esprits, grâce aux technologies de l'information et de la communication, le récit politique du progrès technologique triomphant. Il est temps d'en finir, car aujourd'hui, la grande majorité des fleuves et de leurs bassins versants sont sous contrôle impérialiste, tandis que les eaux souterraines sont allègrement pompées pour l'irrigation intensive, au point de déplacer l'axe de rotation de la Terre. Car aujourd'hui, alors que l'eau douce des rivières et des nappes phréatiques se fait de plus en plus rare et polluée, les géants de l'agroalimentaire embouteillent les eaux minérales et les eaux de source pour les vendre à prix d'or, préparant un monde où l'accès à l'eau potable et à l'alimentation en poudre associée est une source majeure de pollution plastique, d'émissions de dioxyde de carbone et surtout de profits immenses. Aujourd'hui, les méga-bassines contre lesquelles nous luttons dans le Poitou sont un des innombrables moyens pour maintenir les agro-industries sous perfusion et empêcher l'avènement des formes d'agroécologie vivrière et de permaculture, héritières des cultures paysannes et autochtones qui font pourtant à petite échelle leur preuve chaque jour partout sur la planète depuis les millénaires. L'heure des glaciers est en train de sonner. Il convient dès lors de prendre le parti de l'eau et des rivières. Le vent se lève, il faut tenter de vivre.
Bonjour à toutes et à tous. Jean-Claude de la coordination Île-de-France et de la coordination au bien commun France. Ah, ben voilà, à force d'appeler l'eau, elle arrive.
Je vais essayer de faire une transition entre le local et le global. Nous vivons depuis plusieurs années maintenant le formidable surgissement de cette lutte contre les méga-bassines. Belle lutte, déterminée, créatrice, unitaire, à un moment où l'eau, la question de l'eau, devient un sujet de préoccupation du grand public, tant pour sa qualité que pour sa quantité. Et donc, vous le voyez bien ici, et à travers nos interventions et puis à travers tout ce village de l'eau qui a une véritable effervescence citoyenne avec la création de plein de nouveaux collectifs, avec plein de luttes, plein d'associations aussi qui pour certaines sont plus anciennes. Et finalement, nos mobilisations concernent, une fois rassemblées, l'ensemble du cycle de l'eau et elles témoignent de l'importance de la question de l'eau pour la société française. Toutes, à des échelles et à des niveaux différents, portent une opposition au système économique actuel et défendent les principes de droit à l'eau et des communs. Nous avons pris goût à nos rencontres et à agir ensemble, notamment justement à l'occasion de ces mobilisations contre les méga-bassines. Pour autant, ce n'est pas suffisant. Nos associations, la coordination au bien commun France, considèrent que la survenue de l'eau parmi les priorités de l'agenda politique du pays nous oblige. Elle nous oblige à mieux nous connaître, à partager nos expériences, à échanger et à apprendre de nos défaites et de nos victoires. Elle nous oblige à montrer un front uni dans la diversité des formes, des modes d'action et d'organisation pour résister aux atteintes toujours plus nombreuses aux libertés associatives en France. Elle nous oblige à porter un socle de messages communs qui font consensus dans le respect et la confiance, dans l'expertise de chacune de nos organisations. Elle nous oblige à coordonner nos actions et à partager des combats, à inventer une hybridation de nos luttes. Pour aller plus loin dans cette voie, c'est le sens de la proposition que nous faisons, que nous mettons en débat, que nous vous soumettons, de créer un forum des mouvements de l'eau en France. Nous proposons donc aux collectifs, syndicats, associations qui partagent le même constat de se rassembler dans un forum des mouvements de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce forum se réunirait au moins une fois par an en présentiel, à l'instar du forum italien des mouvements de l'eau ou du mouvement européen pour l'eau. Ce forum aurait vocation à nous réunir durant 2 ou 3 jours pour mieux connaître nos problématiques, nos revendications, nos difficultés, bref, à construire du lien pour mieux agir ensemble. Ce moment d'échange pourrait, nous espérons aussi, être un moment militant, convivial, durant lequel nous envisagerions des stratégies et des messages communs. Voilà donc cette proposition. Vous l'avez sous forme écrite, cet appel donc, qui va vous être distribué, qui est appelé à se réaliser dans les prochains mois et dans les prochaines années. Et donc, je vous disais, on fait la transition entre le local et le global. Donc là, maintenant, on va écouter un message de Pedro Aroro Agudo, qui est le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'eau et à l'assainissement.
Chers amis, tout d'abord, merci pour l'invitation. Depuis que j'ai été nommé rapporteur des Nations Unies sur les droits humains à l'eau potable et à l'assainissement, j'insiste toujours sur le fait que nous sommes confrontés, entre autres, à une crise particulièrement paradoxale, la crise mondiale de l'eau sur la planète bleue, avec quelques 2 milliards de personnes sans accès garanti à l'eau potable, dont la plupart ne sont pas proprement des assoiffés sans eau dans leur environnement de vie, mais plutôt des personnes appauvries qui vivent à côté de rivières ou sur des aquifères pollués, ou dont les eaux sont accaparées par des acteurs puissants pour leur activité économique. Pour faire face à cette crise de l'eau, je propose de relever 3 défis. Premier, faire la paix avec nos rivières et nos écosystèmes aquatiques. Deuxième, promouvoir une gouvernance démocratique de l'eau en la considérant comme un bien commun et non comme une marchandise ou un simple intrant productif. Et troisièmement, faire de l'eau un argument de paix et de collaboration entre les peuples. En ce qui concerne le premier défi, il ne sera pas possible de progresser sérieusement dans la garantie d'une eau potable sûre pour les 2 milliards de personnes qui n'en disposent pas, si nous ne sommes pas en mesure de restaurer les rivières, les sources, les lacs ou les aquifères d'où ces personnes tirent leur approvisionnement quotidiennement. J'entends souvent parler de la nécessité de développer et d'appliquer des technologies sophistiquées pour relever ce grand défi qu'est la réalisation de l'ODD 6. Et nous disposons sans doute certainement des technologies nécessaires pour résoudre ou traiter chacun des problèmes qui affectent ces personnes. Nous pouvons faire venir de l'eau de qualité de sources éloignées à des centaines même de kilomètres, où nous pouvons installer des usines d'osmose inverse à côté de villages qui n'ont que de l'eau polluée, oui. Mais nous ne devons pas oublier que nous parlons de personnes extrêmement appauvries, pour la plupart, qui ne peuvent pas se permettre de telles solutions. La seule option viable est de retrouver le bon état des écosystèmes à partir desquels ils sont approvisionnés. De retrouver l'ingénierie naturelle du cycle de l'eau, qui fonctionne d'ailleurs avec des technologies naturelles très sophistiquées et de l'énergie solaire gratuite. En 2023, j'ai élaboré et présenté un rapport sur ce sujet qui est disponible sur le web. Je vous invite à le lire. En ce qui concerne le deuxième grand défi, il est essentiel de comprendre et de privilégier parmi les nombreuses fonctions et valeurs en jeu autour de l'eau, son rôle essentiel d'âme bleue de la vie. Nous devons tenir compte des priorités éthiques dans la gestion de l'eau. La priorité absolue, à mon avis, doit être accordée à l'eau pour la vie, dans ses utilisations en fonction vitale. Le minimum vital, par exemple, dont nous avons besoin pour vivre dans la dignité, simplement, en tant que droit humain, l'eau potable à l'assainissement. Ce qui est de plus inhumain et de plus fréquent, c'est l'utilisation de l'eau dans les conflits armés comme arme de guerre contre la population civile, comme c'est le cas en Irak, au Soudan et surtout à Gaza, où le gouvernement israélien a publiquement déclaré depuis le début des hostilités sa décision de couper l'eau, la nourriture et les médicaments à la population de Gaza, une décision qui est prise en violation du droit international. L'article 7 du statut de Rome même qualifie de crime contre l'humanité et de crime d'extermination le fait de couper l'eau, la nourriture et les médicaments, qui sont les principaux moyens de survie. En harmonie brutale avec ce qui est déjà évident comme un véritable génocide contre le peuple palestinien. L'obligation de boire de l'eau Soumâtre, massivement contaminée par des matières fécales, est une bombe silencieuse qui tue et tuera surtout des milliers d'enfants. Des milliers d'enfants. Des milliers qui s'ajoutent aux 40 000 tués, assassinés par les bombes. Aux plus de 10 000, on estime 10 000, qui sont encore sous les décombres. Il faut réagir. L'eau ne peut pas jamais être employée, usée comme une arme contre les populations civiles. Merci bien.
Dimanche 21 juillet 2024, toujours à l'heure d'un premier bilan du village de l'eau, ici vu depuis la mairie de Mel, avec Sylvain Griffaut et Floriane Gicchio.
Bonjour.
Bonjour Sylvain.
Bonjour.
Maire de Mel et Floriane.
Adjointe en charge de la stratégie foncière et agricole et alimentaire et en charge du projet sur la ferme de la Genellerie où nous sommes.
Il est peut-être un peu tôt pour vous pour faire un bilan, puisque ce village de l'eau, là vous entendez tout un tas d'agitation autour de nous, des véhicules, ben voilà, ça range.
Je suis vraiment très contente de l'événement, très positif. C'était important pour nous d'accueillir le village de l'eau sur la ferme de la Genellerie et les parcelles qui sont autour. Et à la fois c'était risqué parce qu'on est au milieu de l'aire de captage et parce que la vallée de l'Argentière est un vrai écrin pour la biodiversité. Les limites autour de la rivière, de la réserve de biodiversité communale ont complètement été respectées. Il n'y a pas un papier par terre alors qu'il y a eu 10 000 personnes à passer en simultané. Pas un mégot de cigarette qui traîne. J'ai vu personne faire ses besoins n'importe où. Quand les règles font sens pour les valeurs qu'ils partagent, tous ces gens-là, et ben, y a aucun problème à les respecter. Par contre, quand ça ne fait pas sens, comme la construction de méga-bassines, bon, ben là, il y a une parole qui a envie d'être entendue.
Sylvain ?
Je crois que ça s'est passé comme l'orga l'avait prévu, c'est-à-dire de manière sereine, de manière apaisée, et pas du tout le cataclysme que certains avaient annoncé ou voulaient voir dans cet événement-là. Donc moi, je n'ai pas été inquiet de la semaine, parfois sur des questions techniques, parce que quand on accueille 10 000 personnes sur un site, forcément, il y a des petits bugs qu'il faut corriger. Mais voilà, avec une équipe ultra compétitive comme celle de l'organisation, il y avait systématiquement des réponses pour nous rassurer, nous, élus, pour mettre en place des choses qui apportaient systématiquement des solutions. On n'a jamais été en face de quelque chose d'insolutionnable, de la même façon qu'on n'a jamais été en face d'une violence inéluctable.
On peut quand même saluer qu'il y a eu des prouesses technologiques assez inouïes réalisées ici. Hein. Tout un système de pas de tout à l'égout. Ils sont vraiment très forts. Hein.
Techniquement très forts. En fait, je pense qu'à chaque rassemblement, il y a du progrès. Vraiment dans une dynamique d'éducation populaire où chacun apprend un peu plus à chaque fois. Pour moi, vieux scout, pour lequel la coéducation est vraiment quelque chose qui est fondamental pour arriver à des événements comme cela ou mise en œuvre de projets qui s'appuient sur le fait que chacun apprend de l'autre. Là, on a, je pense, encore vu tout un tas de gens qui ont appris de ce rassemblement et qui, sur un rassemblement prochain, seront encore plus performants pour épargner l'environnement, nourrir 10 000 personnes, proposer en pleine cambrousse des concerts, des conférences, des projections. Chapeau à l'orga, bravo aussi aux habitants de Saint-Martin-les-Mel qui ont accueilli, pas forcément tous de côté de cœur, cet événement, mais pour lequel je pense que si vraiment ça s'était passé mal, on aurait eu, nous, élus, beaucoup, beaucoup, beaucoup de retours. Et je pense que quand on accueille un événement comme ça ici et qu'on a aussi peu de choses à gérer en termes politiques ou de manière riveraine, ça veut dire que globalement, le défi était tenu.
à nouveau, chapeau et merci d'avoir l'envie et puis le courage politique d'accueillir cet événement. Et puis, Bassine, non merci, et derrière les soulèvements de la Terre, hein, que certains ont voulu dissoudre. Mais ce courage politique, voilà, il va être mis à l'épreuve aussi, puisqu'il va y avoir des municipales à un moment ou à un autre. Floriane.
La démocratie, c'est aussi que les élus tournent. Donc, les personnes qui veulent constituer une liste, elles sont complètement bienvenues à le faire et à porter un autre programme que celui qu'on aura porté. Il y a quand même une grande part de la population de Mel qui est fière d'avoir des élus actifs et qui est fière de voir que les élus mettent en œuvre le programme pour lequel ils ont été élus, avec une vision à 2030 à travers le schéma de déplacement, à travers l'éco-quartier culturel et créatif autour de l'hôtel de Ménoc, et aussi à travers une stratégie foncière et agricole, et aussi à travers le projet sur la ferme de la Genellerie. Donc, je pense qu'il y a quand même une part de la population qui ne cherche pas juste à habiter au calme, mais qui cherche aussi à avoir des élus engagés qui ont ce regard à long terme pour continuer à façonner le territoire dans lequel ils vivent.
Vous avez eu en amont, malgré tout, des administrés qui ont exprimé des réserves, des craintes.
Oui, on a eu des mots comme « vous êtes inconscient, ça va obligatoirement mal tourner, vous serez responsable » ou « vous n'avez pas autre chose à faire ».
C'est des gens qui viennent vous le dire
qui le disent quand on les croise dans la rue. Mais c'est pas grave, chacun a droit de penser ce qu'il veut. Tant que ça nuit pas ou que c'est pas plus violent, je pense qu'on le tolère et puis on est conscient. Bah, on peut pas plaire à tout le monde et également dans la politique. Par contre, il y a aussi une grande majorité de citoyens qui ont témoigné leur soutien, leur fierté. Et moi, je m'accroche à ça. Et on vit une expérience. C'est un mandat de transition. Après la fusion de 5 communes, forcément, c'était un mandat qui ne serait pas facile, on le savait, et puis on le vit comme une expérience et on fait de notre mieux. Et on essaye de respecter ce qu'ont fait nos prédécesseurs. Un arboretum sur le chemin de la découverte, ils ont été très précurseurs au niveau de la voie verte, de conserver des arbres, de classer des arbres remarquables à Mel. Donc ces valeurs autour de la biodiversité et de la valorisation de notre territoire, et ben je crois qu'on continue aussi dans cette dynamique-là. Même en accueillant le village de l'eau, c'est aussi dans ce contexte-là qu'on l'a fait. Ça a vraiment donné un coup de projecteur sur la vallée de l'Argentière, qui est magnifique. Ça a permis à des gens qui ont fréquenté le village de l'eau d'aller aussi sur la Biennale d'art contemporain, qui a lieu à Mel. Il y en a qui sont allés aussi sur le boulevard du jazz, donc un festival de musique. Il y avait un marché de créateurs jeudi après-midi à l'hôtel de Ménoc. Il y a des gens aussi qui l'ont fréquenté. Cet événement n'aura pas nuit à Mel, il n'aura pas coûté aux contribuables comme certaines rumeurs le disent, parce que toute l'organisation a été portée financièrement aussi par les organisateurs. Donc c'est vraiment un événement qui sera bénéfique pour Mel, pour faire connaître notre petite cité de caractère et la valoriser et la respecter et la préserver.
C'est vrai, et qu'est-ce que c'est joli chez vous. Est-ce que vous avez eu aussi parmi vos administrés des gens qui ont exprimé des craintes en amont et qui finalement ont été rassurés de voir que ça se passait bien, Sylvain?
Ça, on va le voir au fur et à mesure, hein, à partir d'aujourd'hui. Il y avait tellement d'inquiétudes montées en épingle par certains qui veulent voir le mal partout ou qui fonctionnent à la peur. Il y a quelques syndicats agricoles aujourd'hui qui doivent aussi faire le bilan de leur propre communication pour avoir fait croire à leurs membres que les fermes allaient brûler, que les champs allaient être détériorés.
Il y a un champ qui a été brûlé vendredi assez loin d'ici, mais bon, c'était pas les éco-terroristes hein, qui ont mis le feu.
Il a même été admis par la préfecture que ça venait effectivement des forces de l'ordre. Mais moi, ce qui m'intéresse de débriefer là maintenant, c'est qu'il faut que les gens sortent de la peur. Il y a beaucoup de médias aujourd'hui qui fonctionnent avec un principe de faire peur avant que les choses arrivent. Et la peur n'est jamais une bonne conseillère. Floriane disait, voilà, on assume un programme qu'on a mis en place à partir de 2020, qui était un programme très collectif. On ne fait rien aujourd'hui que mettre en œuvre ces projets-là. Alors, au bout de 4 ans, ils ne se mettent pas forcément en œuvre exactement de la façon qui pouvait être prévue, parce qu'on n'avait pas non plus au départ prévu de le faire comme ci ou comme ça, mais en tout cas, on avait une ligne politique. On poursuit cette ligne politique aujourd'hui et je crois qu'aujourd'hui il y a beaucoup 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 de gens qui attendent que l'on fasse, pour le coup, quoi qu'il arrive, jusqu'au bout du mandat, on sera des élus qui font et des élus qui pensent plutôt que des élus qui déclament ou qui incantent. On n'est pas modeste, je pense qu'on est humble. On ne va pas récupérer cet événement-là pour notre petite pomme. Il n'y a rien à récupérer qu'un combat politique à faire avancer. Quand on est des élus et qu'on ne fait pas de politique, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui en souffrent aujourd'hui. On a un projet, c'est un projet qui est politique, et qui n'est pas politicien, mais il est politique. Toute notre énergie jusqu'au bout du mandat, ce sera de mettre en œuvre ce projet-là. Hier, on a croisé des gens sur le village de l'eau, que moi j'avais croisé avant le début du mandat, sur des ronds-points et qui étaient gilets jaunes. Et on avait des grands débats. C'est des gens qui se réfugiaient peut-être vers des votes contestataires et qui parlaient beaucoup de marine à l'époque, parce que c'est des gens qui se sentent impuissants, qui se sentent méprisés.
Qui le sont d'ailleurs.
Et ils sont venus nous dire bravo, ils sont venus nous dire « Ouais, vous en avez !» Peut-être que c'est ça le signe le plus beau. Beaucoup de gens dans ce village de l'eau sont des gens qui sont venus convaincus. Notre boulot, nous, maintenant, à partir de maintenant, c'est de faire en sorte de montrer que ce qui s'est passé là, ça sert aussi à convaincre et à faire revenir vers le champ démocratique, vers le champ citoyen et vers le champ d'une politique vraiment empreinte d'écologie et de solidarité, des gens qui ont fui ces politiques-là, voyant que depuis des années, c'est ce qu'on leur vendait et qui n'a jamais porté leurs fruits. Ben moi, voilà, qu'on vienne me serrer la main pour des gens que j'ai vus sur des barricades gilets jaunes, condamnés à un vote d'extrême droite, par dépit, qui viennent au village de l'eau, qui viennent nous visiter et qui nous disent merci pour ces raisons-là, je crois que c'est le plus beau message que j'ai pu avoir.
Si, à l'avenir, des gens de Bastille Non Merci vous disent « on aimerait bien refaire quelque chose à Mel », vous leur direz quoi ?
Joker. Le Mélois n'est pas le seul lieu dans lequel il y a ces problématiques de flotte. Peut-être que ça se fera ici, peut-être que ça ne se fera pas ici, mais que ça, si ça se fait à un autre endroit, en tout cas, nous, élus de Mel, on y sera sensibles. S'il y a un choix d'un autre endroit, on voit quel puits de dôme qui est touché. Le principe des mégabassines cherche aujourd'hui à être imposé partout, alors que les problèmes d'eau sont très diversifiés, et ça, je le tiens de la coordination rurale, partout. Et donc, c'est des solutions territoriales qu'il faut trouver, et des solutions territoriales en dialogue avec des gens. Nous, que ça se fasse là, que ça se fasse ailleurs, en tout cas, on sera présent pour peut-être accompagner des élus à avoir le courage d'accueillir, parce qu'en fait, beaucoup de gens nous ont dit que c'est du courage, et on vient de vous le dire, c'est assumer un projet politique qui a déjà quelques années, plus que du courage. Le jour où on a dit oui, on m'a beaucoup demandé si ça allait, si on avait de la pression, etc. La pression, elle a été la plus forte avant qu'on dise oui, ne serait-ce que pour nous. Peser si oui ou non on le fait, qu'est-ce que ça a donné les fois d'avant, comment est-ce qu'on cerne avec les porteurs du projet Stop Mégabassines vers quoi ils veulent aller, comment, quel mode d'action ils veulent mettre en œuvre, dont on voit bien qu'ils ont aussi tiré des leçons de ce qui a pu être fait avant et de ce qui a marché ou pas bien marché. Donc du jour où on a dit oui, je pense qu'on était droit et on a assumé nos responsabilités, et ça pour le coup c'est pas de la pression, c'est être des élus.
Il faut les trouver aussi, les communes qui veulent bien accueillir des gens qualifiés d'éco-terroristes.
Les Normands ont conduit la maire de Poitiers à rédiger une tribune de soutien à la commune de Mel, mais plus large que ça, dire les communes ont la responsabilité de faire vivre des espaces démocratiques. C'est arrivé à d'autres endroits, sur d'autres luttes, que les communes plus petites que d'autres accueillent des événements comme ça. J'espère qu'avec ce qui s'est passé là, il y aura de plus en plus de communes pour dire stop au non-débat. On veut permettre que des débats se déroulent en toute sérénité. Le mouvement a montré que du débat serein, apaisé, des gens qui viennent, qui s'auto-organisent. Moi, je crois profondément que l'auto-organisation et la coéducation, c'est des choses qui portent loin. Et ça, c'est peut-être ce qui fait le plus peur. C'est de voir 6000 personnes, dont beaucoup sont des jeunes, être capables de s'auto-organiser sur une semaine pour vivre sereinement ensemble. C'est des choses qui peuvent faire peur. Et ben, faut qu'on, nous, on soit capable de dire à d'autres communes que ça peut se faire en bonne entente. Un réseau de communes capable petit à petit de dire non à ceux qui leur mettent la pression, ben, c'est ça aussi qu'il faut qu'on soit capable d'accompagner. Et puis après, il y a un autre truc, hein, c'est que si, grâce au village de l'eau, le projet auquel est destinée la générie se met en œuvre de manière plus rapide, ben, peut-être que dans un an ou dans deux ans, ici, il y aura déjà des gens installés et que ce ne sera pas aussi facile d'installer le village de l'eau ici. La graine qui se met là, elle va sûrement germer rapidement. Ce sera peut-être pas aussi facile de s'installer ici, mais on participera à trouver d'autres lieux si nécessaire.
Si d'autres élus ont besoin d'un peu de conseils, etc., ils peuvent aussi vous consulter.
Complètement. Ouais, faut pas qu'ils hésitent. Maintenant, ils savent où est Mel. Entre Niort et Sainte-Soline.
Et voilà les amis, c'est ici que prend fin ce premier volet de bilan de Village de l'eau. Suite au prochain épisode avec des déclarations de membres de la trentaine de délégations internationales venues au Village de l'eau. Cette série est téléchargeable via notre site
Polymix et lavoixoff.com. À très bientôt sur votre radio libre préférée. Ce n'est qu'un combat. Continuons le début. No basaran.